Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Vous faites peut-être partie des Françaises et des Français qui ont suivi, qui suivent ou qui suivront un jour un régime amaigrissant. Maigrir, le rêve pour beaucoup, avec le secret espoir de recouvrer la silhouette de sa jeunesse, entrer à nouveau dans sa robe de mariée, retrouver les abdos en tablette de chocolat de son adolescence, renouer avec un bon état de santé, conjurer les risques sanitaires liés au surpoids ou à l'obésité, répondre au canon qui valorise un corps mince et s'embourler, jugé inesthétique par une invisible loi des reins. Mais comment distinguer le vrai du faux dans l'immense jungle des régimes qui vous promettent monts et merveilles avec un minimum d'efforts et un allègement de votre porte-monnaie parfois? Pourquoi croyons-nous aux promesses miracles que nous savons mensongères? Quels sont les conseils de base, de bon sens, pour équilibrer son poids de forme? Comment s'y retrouver face aux injonctions qui nous conseillent de renoncer au sucre, au gras? Et inversement, existe-t-il vraiment des aliments interdits qui nous font irrémédiablement grossir? Nos experts essaieront de vous délivrer l'information la plus fiable possible. Ma complice cet après-midi, Guillemette Odissino, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Bienvenue à nos invités. Bonjour professeur Irène Margaritis.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'unité de l'évaluation sur la nutrition et les risques nutritionnels à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Bonjour docteur Catherine Lacronière.
Bonjour Ali.
Médecin nutritionniste, vous avez notamment publié Conseils minceurs pour irréductibles épicuriennes. Sylvain Duval, bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes biologiste et vous avez publié Le guide des régimes contre les idées reçues sur le surpoids et la minceur. Alors, comment expliquez-vous, autour de la table, ce besoin collectif de maigrir, Catherine Lacronière?
C'est une envie d'avoir une silhouette de rêve, de se faire plaisir, d'être bien dans son corps. Une envie parfois très ancienne, et malheureusement, et souvent inatteignable. Parce que, en fait, on s'imagine, on ne se voit pas, et on s'imaginerait mieux si on avait moins de kilos.
Vous comprenez que la majorité des Français soient totalement perdus en matière de régimes amaigrissants, avec bien souvent des recommandations contradictoires? Irène Margaritis.
Je pense qu'il faut faire la différence entre ce que sont des recommandations alimentaires pour maintenir un état de santé avant tout. Ce qui est prioritaire, c'est l'état de santé. Des régimes qui sont peuvent être un pansement sur une jambe de bois et qui vont venir perturber parfois un équilibre alimentaire. Et le premier objectif, c'est un objectif sanitaire. C'est-à-dire que la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de suivre un régime amaigrissant? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que je me fais une idée de ma silhouette, qui est parfois pas la bonne idée? En plus, hein, on s'est rendu compte qu'une très très grande partie des femmes qui ont un poids normal, entre guillemets, c'est-à-dire dans la norme statistique, et encore une fois, qu'est-ce que le poids normal, on y reviendra probablement, souhaitent maigrir. Et beaucoup de femmes suivent un régime amaigrissant au cours de leur vie, ou ont suivi un régime amaigrissant.
Sylvain Duval, vous répertoriez dans votre livre Le Guide des régimes, un nombre hallucinant de régimes, le régime 5-2, le régime Atkins, le régime banane, le régime bikini, le régime Cohen, le régime californien,
de A à Z.
Le régime du quand le régime Fitnext, le régime Hollywood, le régime Karl Lagerfeld, paix à son âme, le régime macrobiotique,
etc.
Comment
etc.
voulez-vous que les Français, que ceux qui veulent perdre du poids, puissent s'y retrouver?
Et vous avez aussi des docteurs qui sont habitués chaque année à publier 3 ou 4 livres qui vont encore sortir les nouveaux régimes. Et donc, effectivement, il y a un afflux d'informations, que ce soit dans les médias ou sur Internet. On va dire tout et son contraire. On va entendre que, je sais pas, que le beurre, à un moment, va être bon parce qu'il y a tel acide gras saturé. Et puis l'autre va dire, non, ça bouche les artères. Enfin, on va vraiment entendre tout et son contraire.
Catherine Lacronière.
C'est ce qu'on voit en consultation. Les gens sont perdus. Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Comment il faut que je mange? On me dit ça, l'année d'après, on me dit le contraire. Donc, ils ne savent plus du tout où ils en sont.
Guillemette Odissino.
J'aimerais revenir, je trouvais ça vraiment... ça me parlait le coup de l'image du corps. Parce qu'effectivement, on se regarde dans la glace, on se trouve moche, gros, enfin, ça va, évidemment. Les gens qui vous aiment vous disent « Mais non, t'es parfaite, on les croit pas. » Mais c'est sans doute, ils mentent également. Bien. Donc, si on veut, en fait, savoir... si on est en surpoids, si on ne l'est pas, si on a finalement plus ou moins son poids de forme, si sa silhouette n'est pas aussi difforme qu'on le pense, à qui on demande? Quel est l'interlocuteur définitif et fiable, qui ne soit pas son miroir ou son petit ami?
Alors, l'interlocuteur définitif et objectif, hein, pour le coup, c'est un médecin nutritionniste ou un diététicien. Donc, les deux vont être en capacité, sont des professionnels de santé qui sont formés et qui ont une formation en nutrition et qui vont être à même d'identifier l'adéquation entre la corpulence, parce que c'est pas seulement l'IMC, hein, c'est la corpulence, c'est un ensemble de choses, et qui vont, de ce fait, identifier le besoin éventuel réel de maigrir au regard de l'état de santé, et non pas au regard de canons esthétiques.
Catherine Lacronière.
Oui, puis il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a d'abord l'histoire du poids de chacun. Chacun a une histoire différente, on ne fait pas le même poids quand on est petit, et donc on ne va pas proposer à deux personnes le même poids de forme. Et puis il y a en effet, si vous avez du cholestérol, si vous avez du diabète, si vous avez des risques, un risque cardiovasculaire plus élevé, là, on ne parle plus de régime, on parle de conseils alimentaires pour une meilleure santé.
C'est quoi le poids de forme ?
Le poids de forme, qu'on appelle aussi en jargon pondérostat, c'est typiquement un poids auquel on se trouve et qui n'augmente pas et ne diminue pas facilement. Et on l'identifie comme ça. C'est-à-dire que très souvent dans notre vie, pendant très longtemps, on reste à peu près au même poids. Et à un moment donné, ça décroche vers le haut. Et là, il y a une prise de poids, effectivement, donc il peut y avoir une prise de conscience immédiate, il peut y avoir une prise de conscience après 5, 6, 10 kilos. Et très souvent, la prise de poids, quand elle est soudaine, c'est-à-dire au moment de ce décrochage, a une origine qui peut être une origine psychologique, une origine hormonale, une origine physiologique, un changement de vie. On change de vie, on s'en rend pas compte, on est moins actif, on est plus sédentaire. Et là, on se fait un peu prendre par le poids.
Pourquoi grossit-on ? Quelle est l'équation du surpoids, Catherine Lacronière ?
En fait, c'est une balance entre les apports, c'est-à-dire ce que vous mangez, et les dépenses. Autrement dit, l'activité physique. Et c'est cette équation qui vous donne l'équilibre. Donc, si vous commencez à manger plus et vous ne dépensez pas, vous allez stocker et le poids monte, la masse grasse augmente. Et donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Et puis, il y a des périodes de vie. On sait qu'il va y avoir des prises de poids après les grossesses chez les femmes, qu'il y aura des prises de poids à la ménopause, qu'il y aura des prises de poids aussi même quand on prend sa retraite, parce qu'on change de vie, etc., etc. Donc, il y a toutes ces raisons qui font que le poids va changer.
Comment savoir si on est réellement en surpoids ? Doit-on plutôt se fier à sa balance, à l'indice de masse corporelle, l'IMC, ou bien au tour de taille ?
Alors, il y a différents indicateurs, hein, effectivement, ce que vous venez de citer.
C'est quoi l'indice de masse corporelle ?
L'indice de masse corporelle, c'est un calcul qui consiste à utiliser le poids et la taille. C'est un rapport entre le poids et la taille.
Le poids en kilos par la taille en mètres au carré.
Au carré.
Par exemple,
ça.
Si je fais 90 kilos, je divise 90 kilos par 1,70. Si je fais 1,70
au carré.
Voilà. Et ça donne un IMC, là, par exemple, de 31,14. Et là, par exemple, voilà. On est en surpoids.
On entre dans la zone obésité.
Obésité,
au-delà
même.
De 30. 31, ouais. Donc, on considère, mais c'est encore une fois, il faut faire très attention à ces approches en population, parce que la bonne approche, c'est une approche individuelle. Donc, revenons à cette question de population. Au-delà de 25 d'IMC, on considère qu'on est en surpoids. Au-delà de 30, on entre dans une zone obésité. On comprend bien qu'on ne rentre pas en surpoids à 24,9 et obésité à 29,9, c'est ridicule.
Surtout si on est musclé.
Surtout si on est musclé. Alors, il y a un autre élément qui est très important, qui est la taille au niveau abdominal.
Le
tour de taille. Et la masse musculaire. Donc, c'est lié aussi, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir un poids qui peut être un poids plutôt élevé, avec un IMC au calcul qui va être élevé, mais qui est lié au fait qu'on a beaucoup de masse maigre, c'est-à-dire de muscles, qui pèsent pour un même volume plus lourd que la masse adipeuse. Et de ce fait, quand on calcule son IMC, ben on se trompe et on fait une interprétation qui est erronée.
Catherine Lacronière, le tour de taille donne une idée assez précise de la graisse accumulée au niveau de l'abdomen.
Oui.
Et il faut s'inquiéter à partir de quel seuil ?
Alors d'abord, c'est important cette graisse abdominale, puisqu'elle est un facteur de risque cardiovasculaire et de diabète.
Et d'inflammation.
C'est un indicateur santé. Donc pour les femmes, on l'apprend au niveau du nombril, hein, et pour les femmes, il faudrait être en dessous de 88 cm. Et pour les hommes en dessous de 100.
Guillemette Audicino.
Non, je me demandais s'il y avait l'hérédité rentrée en compte. C'est-à-dire, parce que on parlait de l'âge, on parlait de la ménopause, etc. Mais quand on a vu sa maman grossir, ou quand des garçons ont vu leur papa grossir, et ils commencent à paniquer, peut-être d'ailleurs à commencer des régimes avant même que ce soit utile, parce qu'ils ont vu leurs parents gros, enfin, disons, en surpoids.
Alors, il y a deux facteurs qui vont jouer. C'est le facteur héréditaire. C'est une chose. Évidemment, le métabolisme énergétique, comme beaucoup, est en partie héréditaire. Mmh. Il peut y avoir des évolutions dans la vie, justement, en raison du mode de vie. Mais ce qui est très important aussi, ce sont les habitudes alimentaires. C'est-à-dire que, en général, quand on est dans une famille, on va manger de la même façon. Donc, c'est à la fois la période de l'enfance et de l'adolescence, mais c'est aussi les habitudes qui vont être prises, ces habitudes alimentaires qui vont avoir une incidence sur la suite.
Alexa Rivière et Alexa Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve, et c'est réalisé par David Leprince. C'est bon, Rita Mitsouko en dit.
Où sont les poulards? J'ai faim!
Grand bien vous fasse.
Vous aimez bien tout ce qui est bon.
Ali Rebéi.
C'est très mauvais.
Sur France Inter.
Et nous explorons quelques idées reçues sur les régimes amaigrissants avec le professeur Irène Margaritis de l'ANSES, la médecin nutritionniste Catherine Lacronière et le biologiste Sylvain Duval. Est-ce que l'activité physique aide à perdre du poids? Et si oui, dans quelle mesure, Irène Margaritis?
Alors, première idée préconçue, l'intérêt de l'activité physique, ce n'est pas uniquement la dépense énergétique, parce que si on compte les kilocalories, en trois yaourts, c'est repris. Donc l'intérêt de l'activité physique, c'est de modifier un état physiologique, c'est-à-dire de transformer un état hormonal, d'augmenter la masse musculaire. Il y a énormément d'effets bénéfiques par ailleurs. Et quand, dans une phase d'amaigrissement, le risque lié à l'amaigrissement, c'est le risque de perte de masse musculaire. C'est-à-dire qu'on perd de la masse grasse, mais ce qu'on oublie très fréquemment, c'est qu'on perd aussi de la masse musculaire.
25%.
C'est ça. Donc, si on a une activité physique au cours de la pratique du régime amaigrissant, après on reviendra sur le fait que c'est bénéfique ou pas en tant que tel le régime amaigrissant, mais dans ce cas-là, on limite la perte de masse musculaire et ça a un autre effet vertueux, c'est que, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que la masse musculaire, même au repos, c'est la masse musculaire qui va, notamment les muscles posturaux, dépenser, utiliser de l'énergie, produire de la chaleur et de ce fait, augmenter la dépense énergétique de repos. Et du coup, quand on a un apport énergétique égal, on va rééquilibrer la balance beaucoup plus facilement que si on est peu musclé.
Est-ce que toutes les activités physiques, tous les sports se valent en la matière?
Alors, Je pense que déjà la première question qu'il faut se poser, c'est quel type d'activité physique, d'activité sportive on a envie de pratiquer. Déjà, il faut avoir envie, il faut se faire plaisir. Le plaisir, c'est très important pour l'activité physique, pour le sport, comme pour beaucoup de choses. Mais c'est la quantité d'activité physique quand même, d'une part. Et quand on s'est rendu compte, on a travaillé sur les effets de l'activité physique sur la santé récemment, aussi le niveau d'intensité. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir des activités qui sont assez variées, tant des activités qui s'inscrivent dans la durée, ça peut être de la marche muscle aussi, mais aussi du renforcement musculaire. C'est-à-dire cette complémentarité dans la semaine va faire qu'on va maintenir une masse musculaire à un état de santé favorable.
Sylvain Duval.
Ou alors, par exemple, une activité où vous marchez, enfin, vous faites un jogging, et puis, sur une centaine de mètres, un petit sprint, après une phase de récupération.
Fractionner
des choses comme ça pour solliciter à la fois l'endurance et l'intensité.
Catherine Lacronière.
Je crois que l'important, c'est de trouver en effet ce qui convient. C'est-à-dire une activité physique qui est facile à faire, qui est ludique, qui est proche de chez soi, pour avoir la régularité. Parce que c'est ça qui compte, c'est de le faire de manière régulière et d'essayer d'augmenter un petit peu plus le temps à chaque fois.
Est-il vrai que l'écrasante majorité des régimes font regrossir, même quand on a réussi à perdre du poids ? C'est ce qu'on appelle le fameux effet yo-yo, Irène Margaritis. Comment on l'explique cet effet yo-yo ?
C'est assez simple en fait, hein. C'est-à-dire que quand on décide de faire un régime amaigrissant, ce qu'on va chercher à faire, c'est diminuer les cellules adipeuses, c'est-à-dire la cible, c'est les cellules de graisse qu'on veut faire disparaître. Donc, pour faire disparaître ces cellules, on va essayer de faire en sorte qu'on utilise cette graisse pour de l'énergie utilisable pour la production énergétique, du mouvement, etc. Donc, on va diminuer les apports alimentaires. Donc, on crée de façon artificielle et voulue un déséquilibre entre la dépense énergétique et les apports alimentaires. C'est-à-dire qu'on se met en situation de stress physiologique de façon à obliger l'organisme à aller chercher dans les cellules adipeuses. Donc, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est vraiment une phase de stress physiologique qui va... l'organisme va réagir en disant « Ah ben, puisque c'est comme ça, moi, je vais diminuer mon métabolisme de repos de façon à avoir besoin de moins d'énergie, parce que c'est quand même difficile aller chercher des molécules, aller chercher des lipides dans l'organisme pour les transformer en glucose utilisable. C'est un processus métabolique complexe et coûteux pour l'organisme. Donc la première chose qu'il va faire, il va être à l'économie et il va diminuer son métabolisme de repos. Donc dans un premier temps, on va être fatigué. Il va aussi aller chercher le glycogène qui est dans les muscles et dans le foie. Donc là, il va vider les réserves de glycogène, enfin, c'est une forme de glucides, hein. Ce sont des sucres qui sont utilisables. Donc il va vider, il va se mettre au repos. Et là, le problème, c'est que le métabolisme de repos va commencer à diminuer. Donc on continue à être dans un état de stress physiologique, mais aussi de stress psychologique, qui va faire qu'à un moment donné, le métabolisme de repos ayant diminué, si on remange la même chose, je simplifie à l'extrême, on va déséquilibrer de nouveau. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'à la fin, finalement, on mange une salade, on grossit, une feuille de salade, on grossit. Enfin, c'est un peu l'idée.
Catherine Lacronière.
C'est vrai que ça se voit chez principalement des femmes, parce que c'est vrai qu'elles ont été plus sujettes aux régimes multiples, souvent parfois depuis des années, et qui arrivent et qui viennent en consultation et qui disent « je ne peux plus maigrir ». Parce que même en mangeant justement une salade, eh bien, leur métabolisme de base est tellement abaissé. Donc, c'est pour ça qu'on revient à l'intérêt d'une activité physique régulière qui permet de légèrement modifier les choses. Et puis, en fait, on revient au fait que faire des régimes continus, différents, mais toujours des régimes, eh bien, finalement, c'est très mauvais pour la santé.
Sylvain Duval, faut-il faire attention aux calories ingérées ? Doit-on scrupuleusement compter ces calories ? Ou est-ce qu'il faut plutôt être attentif aux quantités d'aliments qu'on avale ?
Non, d'ailleurs, c'est très difficile de compter les calories. Même un expert aurait du mal, finalement, à pouvoir déterminer d'un seul coup d'œil, comme ça, les calories qui sont présentes. Donc, il faut mieux se fixer aux aliments qu'on consomme et pas aux calories qui sont dedans. Et je voulais dire un mot sur ce qu'avait dit Irène Margaritis, c'est qu'en plus, les cellules ne disparaissent pas. La graisse à l'intérieur disparaît, mais les cellules restent. Donc, elles sont prêtes à se re-remplir au moindre écart.
Guillemette Odissino.
Je me demandais sur le fil d'une vie. Vous disiez qu'une femme fait des régimes, elle grossit, elle maigrit, enfin, etc. Tout ça est assez chaotique. Mais est-ce que aussi on doit savoir, par exemple, que non, on n'a pas le même poids à 30 ans qu'à 20, qu'à 40 non plus, et qu'à 50 non plus, et que ce n'est pas grave, enfin, et que ça correspond en fait à un continuum temps qui n'est pas affolant, c'est juste comme ça.
Oui, et c'est justement, ça fait partie de la consultation. On dit, voilà, combien pesiez-vous à 20 ans? Combien pesiez-vous, maman, après les grossesses, etc. Et on montre aux personnes que le poids a évolué et que c'est normal et qu'il est hors de question d'essayer de récupérer le
poids
illusoire de 15 ou 20 ans. Mais ça, c'est la partie raisonnable. Parce que même si on le sait, on n'a pas forcément envie de ne pas retrouver cette silhouette-là.
Nous souhaitons que les gens qui vivent mal leur surpoids puissent retrouver leur poids de forme. On est tellement sûr de notre programme, on est tellement sûr que ça va vous plaire, on est tellement sûr que ça va marcher pour vous, qu'on est prêt à vous offrir une semaine gratuite.
J'ai commencé il y a 3 mois et j'ai déjà perdu 9,5 kg.
J'ai perdu 24 kg avec en 3 mois.
J'ai perdu 46 kg avec.
J'ai perdu 12 kg en 3 mois avec.
Alors testez une semaine, c'est gratuit.
Impossible d'échapper à la publicité de la marque Comme J'aime. Hein. Il s'agit d'un véritable matraquage, hein. Un tapis de bombe marketing pour vendre des boîtes minceurs. On peut également citer Diète Bon, Kitchen Diet, Régime Box. Bonjour Patricia Chéropoulos.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes journaliste au mensuel 60 millions de consommateurs. Dans votre numéro de mai 2018, vous mettez clairement en garde contre ces box minceurs.
Oui, tout à fait. Nous avons fait ça donc avec l'aide d'une diététicienne. Et on met en garde vis-à-vis de plusieurs choses. Donc déjà, tout ce que les spécialistes ont dit, c'est qu'évidemment, ça n'aide pas à maigrir parce que ces boîtes sont hypocaloriques, vont donc vraiment affamer l'organisme. Donc dès que l'on arrête, évidemment, on reprend. C'est ce qui a été dit. Ça, c'est une première chose. Et un autre reproche parmi d'autres, c'est qu'elles n'ont absolument pas de valeur éducative. C'est-à-dire qu'on va donner donc des repas en kit et ça n'aide absolument pas à réfléchir à comment réorganiser, rééquilibrer son alimentation.
Quel type d'ingrédients retrouve-t-on dans ces boîtes minceurs qui s'apparentent beaucoup à de l'alimentation ultra transformée hein?
Ah, tout à fait. Donc, en général, c'est un ou pour une journée, c'est un ou deux plats préparés que vous pouvez tout à fait retrouver à peu près en grande surface, hein. Et également, souvent des soupes ou des purées déshydratées avec parfois donc des additifs, des choses. Donc, tout ça pour dire que d'un point de vue qualité nutritionnelle et même qualitatif, hein, ce ne sont pas des choses franchement intéressantes. C'est effectivement de l'ultra transformé. Et ce qu'on regrette également, c'est que au prix de ces boîtes, en gros, on a calculé que ça revenait à 15 euros par jour pour un ou deux plats préparés, une ou deux soupes déshydratées. On regrette qu'il n'y ait pas des aliments de qualité nutritionnelle supérieure comme du riz semi-complet ou des légumineuses plutôt que des féculents qu'on retrouve dans toutes les recettes.
Alors en effet, ça coûte très cher, hein, même si on vous appâte parfois avec une semaine gratuite. Comment vous expliquez, Patricia Chéropoulos, que ça marche, que ça fonctionne, enfin que ça marche pas du point de vue de l'amaigrissement, mais que
oui.
Ça trouve un écho du point de vue des téléspectateurs, parce que c'est vrai, hein, il y a un tapis de bombe publicitaire à la télévision qui est absolument incroyable.
Effectivement, l'argument marketing marche très bien. Je pense qu'il y a deux choses. C'est facile. On ne se pose plus de questions. On reçoit sa boîte. En plus, c'est quelque chose d'un petit peu ludique, comme une boîte surprise. Donc, ça stimule. Voilà. Donc, on n'aura pas à réfléchir. Et puis, ces promesses, on se dit, bon, j'essaie tel ou tel régime. Après tout, pourquoi ne pas essayer celui-ci? D'autant plus que l'on est appâté par, oh, ben, c'est une semaine gratuite, qui n'est pas toujours facile à récupérer, soit dit en passant. Donc, voilà. On se dit, pourquoi pas? Et après, on risque de s'enfermer dans un abonnement qui peut durer sur des mois, qui peut même voir un an. Hein.
Est-ce que les testeurs de 60 millions de consommateurs les ont trouvées bonnes, ces boîtes minceurs?
Alors, non, pas vraiment. Alors, au mieux, on va dire que ça ressemble à des plats préparés standards. Au pire, c'est parfois trop salé, des textures qui n'ont pas franchement d'appétence au palais. Donc, non, nous n'avons pas été emballés du tout par ces boîtes. Et ça fait écho au courrier. On reçoit de nombreux courriers de lecteurs qui se plaignent. Un, évidemment, du matraquage publicitaire, et deux, de la piètre relative qualité gustative de ces plats.
Irène Margaritis de l'ANSES.
Alors là, cette situation, ça paraît totalement contre-productif, puisque ce qui vient de souligner est très juste, c'est-à-dire que finalement, la personne se déresponsabilise, hein, au lieu de prendre en charge et se responsabiliser face à son alimentation, qui, en fait, ce qui devrait être un régime amaigrissant utile, qui s'inscrirait, du coup, dans le temps, parce que le problème, c'est que là, cette situation signe le fait que le régime amaigrissant est devenu un produit de consommation. C'est-à-dire que Là, c'est tout à fait caricatural, mais c'est la suite de ce qu'on a vu auparavant et de ce sur quoi on a travaillé, on travaille depuis des années, c'est-à-dire le fait qu'on vend des régimes amaigrissants. Le régime amaigrissant n'est pas un produit de consommation. C'est une approche qui doit être une approche de santé. Si on pense qu'il y a un problème avec le poids, on est en situation, c'est une question qui concerne notre santé, donc l'interlocuteur, c'est un professionnel de santé. Et le problème aussi, indépendamment de l'utilisation de ces boîtes ou d'autres types de régimes d'ailleurs, qui sont des recettes de régime, je vais manger tant de salades à midi et tant de viande le soir. Ce sont des approches qui sont des approches personnelles, c'est-à-dire que une personne pense qu'elle a besoin de suivre un régime amaigrissant et de ce fait, elle va aller prendre un régime qui lui paraît intéressant et le pratiquer pendant un temps assez court en général.
Docteur Catherine Lacronière.
Oui, ce qu'il y a aussi, c'est que d'abord, tout le monde peut le faire, alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas le droit de faire des régimes ou qui ont un état de santé qui contre-indique. Et puis, ça profite aussi de notre société aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens vont vous dire, moi, à midi, j'ai pas de possibilité que d'aller m'acheter un sandwich. Et le soir, je rentre trop tard pour cuisiner. Alors, pourquoi ne pas prendre ça, puisque ça, ça a une image équilibrée, alors que d'autres plats préparés du commerce ne l'ont pas.
Merci beaucoup Patricia Chéropoulos. On peut retrouver ce test des boîtes minceurs dans le numéro de mai 2018 de 60 millions de consommateurs.
Chips, ça veut dire que c'est un produit gras. Donc légère, il faut toujours se méfier, parce que légère par rapport à quoi? On vous dit en petit nota bene par rapport aux produits standards du marché des chips. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme produit standard? D'un côté, vous avez une portion 145 calories, donc allégée, moins 30% de matière grasse. Et là, vous avez des chips normales, entre guillemets, qui n'ont pas été allégées et qui présentent une variation de 18 calories, simplement en plus. 18 calories, c'est pas grand-chose. Donc je pense autant consommer des vrais chips que des chips légères, derrière lesquelles vous allez vous abriter, au risque d'en surconsommer, pensant qu'elles sont allégées.
Vous êtes d'accord avec le docteur Arnaud Cocol dans le JT de France Don 2015, Irène Margaritis?
Oui, c'est une grande classique, hein, les chips allégés, le yaourt allégé en sucre mais qui est enrichi en graisse. Bon, quand on mange des chips,
Les produits allégés n'aident pas à perdre du poids, Sylvain Duval?
C'est même pire, les produits allégés, sont souvent ultra transformés, parce que comme vous modifiez la recette, vous devez compenser ce que vous enlevez par autre chose. Donc, la texture grasse, vous allez la compenser par des amidons, par exemple, ou alors les sucres, vous allez y mettre des édulcorants ou des arômes. Donc au final, on se rapproche d'une recette traditionnelle et on va la modifier. Et en plus, l'argument psychologique, c'est qu'en général, si c'est allégé de 10%, on va en manger 20 ou 50% en plus. Et donc au niveau calorique, c'est une fausse bonne idée.
Catherine Lacronière.
Oui, ça vous dédouane. Si c'est allégé, ben forcément, c'est que ça ne vous fera pas grossir et on en mange plus. Et là, pour le compte, on grossit.
Pareil pour les boissons light, zéro sucre. Hein. En 2015, un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a montré que les édulcorants intenses étaient inefficaces pour maigrir. Et des recherches menées par l'université américaine Johns Hopkins ont montré que les édulcorants intenses auraient même tendance à stimuler l'appétit.
Alors, il y a beaucoup d'études hein, dans tous les sens. Et malheureusement, quand on fait une expertise, ce qui est très intéressant en nutrition, c'est qu'on a toujours beaucoup d'études qui traitent des bénéfices, mais très peu d'études qui traitent des désagréments, des désintérêts, voire des effets délétères.
Comme par hasard.
Donc, oui, c'est étrange. En fait, les édulcorants vont, dans les boissons, mais il y en a ailleurs hein, aussi, vont permettre de, peut-être, on suppose, de garder cette appétence pour le goût sucré, mais en tous les cas, c'est le même principe que le fait de se dédouaner en mangeant un yaourt allégé. On va penser qu'on n'a rien mangé ou on va penser qu'on n'a rien bu. Et du coup, on peut surcompenser derrière pour finalement se nourrir véritablement.
Guillemette Odissino.
Ça me fait penser les chips. le mot là qui est proscrit absolument, c'est grignotage. Hein, faut pas grignoter, etc. Bon. Mais j'ai cru lire le métabolisme de chacun est différent, que certains vont avoir besoin de faire 3 repas par jour, que d'autres seront plus en forme et grossiront moins en faisant des petits repas plus nombreux, mais beaucoup plus petits. Enfin, donc, bon sang, est-ce que... Ou alors la grande tradition, faut manger comme un roi, un mendiant, un machin, là, bon. Il faut manger à quelle régularité ? Ou est-ce que c'est chacun son truc ?
Alors, très bonne question, et c'est une question que l'ANSES s'est posée, donc, qu'elle est en train de traiter. Oui, effectivement, la question, c'est assez compliqué, en fait, parce que ça fait appel à la répartition des apports caloriques, mais sur un état, une situation hormonale dans la journée, qui va faire que, très probablement, à un moment donné ou à un autre, on va profiter, entre guillemets, plus ou moins des apports alimentaires. Donc ça, c'est une question qu'on est en train de traiter, ça fait l'objet d'une expertise. Dans tous les cas, ce qui apparaît assez clairement, c'est que la question du fractionnement des repas, pour le moment, on est en amont de l'expertise, ne pose pas de problème en soi. Mais attention, le problème que ça pose, c'est la perception de ce qu'on a mangé. C'est-à-dire que si on a trois repas qui sont des repas complets et qu'on ajoute du grignotage, de façon tout à fait mathématique et mécanique, on augmente l'apport énergétique. C'est tout. Donc ça, on en est certain.
So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
D'écouter Sparks qui interprétait So May We Start.
Alors dites-moi tout, vous avez fait le régime ?
Grand bien vous fasse.
Oui, celui avec les sachets marrons qui sentent les algues pourries. Vous savez, celui qui donne l'haleine de chacal ?
Oui, je vois très bien. Et vous avez perdu combien ?
1000 euros.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse cet après-midi aux idées reçues sur les régimes en compagnie du professeur Irène Margaritis, du docteur Catherine Lacronière et du biologiste Sylvain Duval. Bonjour Anouchka, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de la Côte d'Azur. Alors vous, est-ce que vous avez entrepris différents régimes pour essayer de maigrir ?
Mais c'était tout l'objet de mon témoignage. Plus jeune, j'avais envie de pas être trop grosse parce que y a toujours le regard des autres, le diktat de la mode, on a envie de rentrer dans les jolis vêtements, etc. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai vite touché du doigt avant 20 ans la méthode yo-yo et la frustration. Et je me suis rendu compte suite à un événement personnel que tout était qu'affaire psychologique et que si on mettait son cerveau en mode « je veux absolument maigrir », on n'y arrivait pas. Et je pourrais dire que mon comportement alimentaire en 20 ans, c'est le comportement que préconisent tous vos intervenants ce matin. Mmh. C'est un subtil mélange de tous ces conseils-là.
Catherine Lacronière, sur le témoignage d'Anouchka.
Oui, c'est vrai qu'en effet, quand on veut absolument, absolument maigrir, et bien finalement... Souvent, on fait le contraire. Parce que d'abord, on va tenir un certain temps la restriction. Et puis après, on va lâcher. C'est ce qu'on disait, c'est l'effet yo-yo. Mais c'est important. Souvent, les patients disent « Ah ben, j'y pense plus. » Et puis, les kilos sont partis naturellement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer justement de bannir l'histoire du mot « régime » pour parler de celui du changement d'alimentation.
Irène Margaritis.
C'est une histoire intéressante qu'on entend là, parce que ça montre bien que finalement les régimes ne fonctionnent pas dans la très 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 grande majorité des cas, et que ce qui est intéressant, c'est d'aller vers une approche équilibrée de l'alimentation. Et en fait, le moment où on se dit mais tiens, j'ai un peu de surpoids, je me sens pas très bien, c'est peut-être le moment de la prise de conscience qui est intéressante et qui va faire que on va commencer à s'inscrire dans des habitudes alimentaires et un mode de vie plus intéressant et plus agréable pour nous-mêmes, plutôt que de se mettre en stress avec un régime qui va durer quelques semaines ou quelques mois, reprendre du poids. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais au-dessus du poids initial, c'est-à-dire que c'est pas un effet yo-yo qui stabilise, c'est une augmentation, c'est comme si on montait des escaliers, c'est-à-dire on descend une marche et on en remonte deux derrière. Donc c'est ça l'effet yo-yo.
Et vous, Anouchka, vous nous l'avez dit hors antenne, choisi l'équilibre alimentaire, c'est ça ?
Oui, tout à fait. En fait, ce que disaient vos intervenants tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fil des âges, à un moment donné, on est conscient que le poids est pas tout à fait le même et jamais le même. Et puis aussi, au fur et à mesure que la vie fluctue de ce qui peut nous stresser ou pas, et l'équilibre alimentaire, il se trouve, par exemple, plus jeune, j'ai arrêté de manger des barres sucrées et chocolatées parce que j'ai vite senti qu'il y avait des produits qui me convenaient pas. Et puis, petit à petit, j'ai, par exemple, pendant ma grossesse, j'ai diminué le sel, donc j'ai pris l'habitude du sel. Et puis, je suis une bonne vivante. Alors, j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime pas me priver, et j'aime pas faire des efforts pour rien. Donc, je veux que les choses, elles soient simples. Du coup, je trouve qu'il est plus simple, par exemple, quand je fais revenir une viande qui contient déjà du gras, de ne pas en rajouter. Et ainsi de suite, et dans chaque petit geste. Et puis après, accepter aussi avec l'âge. Là, je m'approche plutôt de la ménopause. Je sais qu'il va y avoir des prises de surpoids, donc il y a des choses que je commence dès maintenant à me dire, là t'as pas besoin d'en mettre, là t'as pas besoin d'en rajouter, ou non, ne te resserre pas deux fois même si c'est très bon, ne pas être dans la frustration et apporter des choses où on fait attention continuellement, mais sans que ça nous obsède psychologiquement, parce que sinon c'est à partir de là que ça ne va pas.
Et d'être dans le bon sens, chère Anouchka, merci beaucoup d'avoir...
Exactement, merci. Le bon sens.
Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin.
Je vous en prie, bonne matinée, merci.
Le régime cétogène consiste à enlever drastiquement les glucides et à les remplacer par des lipides. Alors lorsque l'on fait cela, les lipides vont être, au niveau du foie, transformés en corps cétonique, dont le principal est le bêta-hydroxybutyrate pour nourrir les cellules. Vous allez perdre très vite du poids au début, et ce n'est que de l'eau les deux premières semaines. Puis ensuite, vous allez continuer à perdre du poids en puisant sur votre masse grasse, mais maigre également. Le problème, c'est que dès que vous stopperez ce régime, vous allez reprendre le poids très vite et le plus souvent, vous le reprendrez au-dessus de votre poids initial. C'est donc un mauvais régime pour perdre du poids sur le long terme.
Extrait de Télématin en mars dernier. Vous êtes d'accord avec le professeur Gilbert Deray, néphrologue, qui ne recommande pas le régime cétogène, très à la mode en ce moment, ce régime donc riche en lipides, en graisses, et qui recommande de réduire considérablement les glucides. Catherine Lacronnière.
Oui, à la base, le régime cétogène, il faut savoir que c'était un régime thérapeutique il y a plus de 100 ans, qui était réservé aux enfants qui avaient une épilepsie grave, parce que le sucre n'arrivait pas à leur cerveau, donc ils convulsaient. Alors on s'est dit, on va leur amener une autre source d'énergie, c'est-à-dire des graisses. Et ils en faisaient des corps cétoniques qui permettaient de nourrir le cerveau et d'éviter. Et puis après sont venus les médicaments d'épilepsie et le régime cétogène est tombé en désuétude. Pour rebondir ces dernières années, parce que en particulier dans le milieu sportif, on s'est rendu compte que en suivant un régime comme cela, on avait une perte de poids très rapide et finalement, on n'avait pas faim et on se privait de rien au niveau gras, quand on aimait le gras. Mais ce que disait tout à l'heure le docteur Coccol, je crois, c'est tout à fait vrai. On ne peut pas tenir ce genre d'alimentation au long cours. Et dès qu'on réintroduit des sucres, eh bien, le poids remonte.
Irène Margaritis.
Non, mais la question est le déséquilibre alimentaire qu'un régime de ce type induit. C'est-à-dire, c'est extrêmement simple. Dès lors qu'on modifie l'alimentation, c'est-à-dire qu'on a une approche qu'on peut qualifier de caricaturale de l'alimentation, on va vers un déséquilibre alimentaire qui ne peut pas être l'objectif du régime, qui ne doit pas être un régime, encore une fois, mais qui doit être la voie vers une alimentation diversifiée et équilibrée.
Sylvain Duval.
Alors, la plupart des régimes sont cétogènes, de toute façon, puisqu'ils vont créer des corps cétoniques. Si l'intérêt de ces régimes-là, justement, c'est que les corps cétoniques qui vont être créés, ils n'atteignent pas des quantités suffisantes pour que ça modifie les urines ou le sang, parce que sinon c'est une acidose, hein, ça va être trop acide. Et puis vous avez les corps cétoniques qui vont vous couper l'appétit et puis ils vont aussi aller jusqu'au cerveau, puisque le corps ne reçoit pas de sucre, il est capable de fabriquer ses corps cétoniques à partir des graisses.
C'est quoi un corps cétonique?
C'est en absence de sucre, le corps va créer donc des substituts qui vont aller jusqu'au cerveau, puisque c'est l'un des organes majeurs qui a besoin de sucre en permanence et qui va le faire à partir des graisses.
Que pensez-vous des régimes qui interdisent les glucides, les féculents, qui bannissent le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, Irène Margaritis, tout ce qui est bon?
Non mais c'est dingue, bannir, se priver, ne pas manger. Enfin, tout ça, c'est encore une fois, ça vise à déséquilibrer l'alimentation. C'est-à-dire que la question, et la question qu'on s'est posée d'ailleurs nous et à laquelle on a répondu en 2010, c'est quels sont les risques qui sont liés au régime amaigrissant. On n'a pas pointé des régimes, on a pris des exemples pour voir quel était le dénominateur commun de ces régimes-là. Et le dénominateur commun, c'est le déséquilibre, même un déséquilibre qui peut être un déséquilibre hormonal, qui peut être un stress très important, un stress à la fois physiologique et psychologique. Enfin, ce sont des effets qui sont communs à tous les régimes. Et après, c'est à la marge. C'est-à-dire que tel régime va faire qu'on va avoir un apport en fibres insuffisant, un autre régime, un apport en sel excessif ou en protéines excessives. Mais dans tous les cas, ça induit un déséquilibre alimentaire et nutritionnel.
Je cite un extrait du livre « Pourquoi on grossit » de Gary Tobbs, hein, qui est journaliste scientifique américain et qui, par exemple, nous recommande d'éviter le sucre blanc, le sucre roux, le miel, le sirop d'érable, le lait, la bière, les yaourts aromatisés, les fruits, les jus de fruits, mais également le pain, les pâtes, les petits pains, les haricots secs, la carotte,
tous les glucides,
le pané. Non mais vous voyez, comment on s'en sort là, Sylvain Duval? Non,
en fait, là ce que je l'ai lu, ce livre de Gary Tobbs, et en fait, il a simplifié pas mal de choses. Et c'est pourtant un bon journaliste scientifique, et ce qu'il écrit souvent sur le... Moi, je l'ai lu aussi sur le cholestérol. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, il s'est attaqué à une seule hormone, c'est l'insuline. Parce que l'insuline, c'est l'hormone majeure de stockage de notre corps. Et donc, la plupart... Il y a eu toute une vague de livres qui ont attaqué que l'insuline, en fait.
Catherine Lacronière.
Je crois qu'il faut rappeler une chose. Manger, c'est d'abord un plaisir. Et puis, en faisant toutes ces phases de restriction, eh bien, on oublie d'être un peu indulgent avec soi-même. Il faut d'abord se dire, voilà, j'ai envie, c'est vrai, de me faire plaisir en retrouvant ma silhouette, mais j'ai aussi envie de me faire plaisir en mangeant. Et ça ne veut pas dire mal manger. Ça veut dire faire du bien à son corps en choisissant mieux ses aliments.
Et que pensez-vous des régimes hyperprotéinés qui promettent une perte rapide sans effet secondaire?
Je crois qu'on a vu ce que ça donnait, hein. C'est-à-dire que je crois que toute la France entière a dû faire un hyperprotéiné à une période de sa vie. Ils ont tous repris, sans compter les effets secondaires au niveau de la santé.
Le fameux régime du camp.
Voilà.
Mais c'est pas le seul, hein, vraiment pas le seul. Hein.
Non seulement ils ont regrossi, mais en plus il y a eu une augmentation des problèmes parce que le rein ne supporte pas cet afflux de protéines. Et quand on a une insuffisance rénale, ce qui peut arriver, ou même un rein qui fonctionne moins bien en vieillissant, c'était dangereux. Et également la migration de calcul de la vésicule.
En fait, tous les régimes vont être hyperprotéinés à partir du moment où ils vont diminuer les glucides et qu'ils vont s'attaquer aux graisses. Et le régime du corps, lui, s'attaquait à la fois aux glucides et aux graisses. Il laissait quasiment que les protéines. Donc, c'était l'extrême.
Guillemette Odissino.
Et les dissocier. Moi, j'ai encore des amis qui me disent qu'ils font dissocier.
Expliquez-nous ce que c'est. C'est-à-dire que, par exemple, on ne doit pas manger au cours d'un même repas, par exemple, des pâtes avec une viande ou du poisson avec du riz, Irène Margaritis.
Ou du pain avec des fruits. Enfin, je sais pas. De toute façon, j'ai jamais compris ce qu'on devait dissocier, mais...
Non, mais on va redire la même chose, c'est-à-dire c'est caricatural, encore une fois. On va avoir une structure alimentaire, on va déstructurer nos repas. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans la durée avec des repas déstructurés?
Mais c'est fou alors que certains aliments ensemble forment, disons, un couple plus toxique.
Maudit.
Ou plus, oui, c'est ça, ou plus engraissant. Je veux dire, ça n'existe
alors,
pas, ça,
moi,
les aliments.
Moi, honnêtement, alors peut-être qu'il y a une partie de la science que j'ignore, mais je n'ai pas d'éléments scientifiques qui permettent d'asseoir ces considérations.
Sylvain
Duval. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que n'importe quel régime va marcher au début.
Au début.
Vous pouvez inventer, j'ai pas un régime où vous allez bannir les aliments avec F, par exemple, et ça va marcher parce que vous allez contrôler votre alimentation.
Donc, on a tort de diaboliser certains aliments. Quand on entreprend un régime, le beurre, la crème, le sucre, les pâtes à tartiner, le fromage, les pâtisseries, le risque, c'est quoi? C'est un conflit interne. J'ai envie de chocolat, mais je n'y ai pas droit, et puis je vais encore plus avoir envie d'en manger, je vais en manger beaucoup du coup si je cède à ma pulsion. Alors, c'est un peu ça?
Je tourne un peu en boucle. Hein.
c'est pas de problème.
Donc je redis, en fait, peut-être d'une autre façon, c'est que je pense que déjà il faut poser la question du bien fondé de la pratique du régime amaigrissant. Et poser cette question-là, hors indication médicale et thérapeutique, c'est déjà ça la question. Nous, dans le travail qu'on a pu réaliser, on s'est rendu compte que dès lors qu'une personne n'en a pas besoin pour sa santé, il n'est pas question de faire un régime et de le faire tout seul en allant chercher quelque part. Autre élément, quand on choisit de faire un régime, quand on pense qu'on en a besoin, c'est une approche avec un professionnel de santé et de façon individualisée. Chaque individu est différent.
Sylvain Duval.
Il y a une expérience que je trouve très belle sur la restriction cognitive, c'est vous prenez deux groupes, un groupe qui n'est pas au régime, un groupe qui est au régime, et avant le repas, vous donnez aux deux groupes un smoothie sucré et un peu gras, et en fait, le groupe qui n'est pas au régime va l'adapter, va manger un petit peu moins, parce que ça a déjà un peu coupé l'appétit, et l'autre groupe, ça va avoir l'effet inverse. Vous avez ouvert les portes de leur interdiction et ils vont manger beaucoup plus. Ouais. Et au final, on voit bien qu'ils sont en déséquilibre par rapport à l'alimentation.
Dans les aliments que vous citiez tout à l'heure, les bars, etc., on est là dans des aliments ultra transformés. Donc, de toute façon, il y a un conseil qui est de réduire. Mais par contre, faites-vous plaisir, mangez du chocolat noir, mangez des fruits, du beurre. Pourquoi? Mais c'est très bien le beurre. Oui. Franchement.
J'adore ça. Liliane, sur notre page Facebook, nous donne une indication très intéressante. Je me suis inspiré du régime crétois, du régime méditerranéen, pour composer mes menus, et j'ai perdu 8 kilos doucement en une année sans sensation de privation. Et il me semble que ce fameux régime méditerranéen, ce fameux régime crétois qui vous est cher, Irène Margaritis, il me semble que c'est peut-être celui qui ferait le plus consensus si l'on souhaite parvenir à l'équilibre alimentaire.
Mais c'est pas un régime en fait, c'est une manière de vivre.
Exactement.
Un régime, c'est peut-être un mot qui peut induire en erreur.
Ouais, c'est un régime alimentaire.
Oui, c'est ça.
Un régime alimentaire.
Et pas un régime amaigrissant.
Alors, cette illustration montre que finalement, cette personne-là a simplement rééquilibré son alimentation et a perdu ses kilos tout en douceur. Donc, on voit bien que dès lors qu'on rééquilibre son alimentation, on s'inscrit dans la durée. On va perdre les kilos superflus si effectivement ils sont superflus. Si ça résiste, il faut voir ce qui se passe. Mais normalement, avec une alimentation rééquilibrée, on peut aller vers un optimum personnel de poids. Je voulais juste dire une chose, c'est que il n'y a pas de régime idéal, c'est-à-dire que le régime alimentaire crétois est intéressant parce qu'il est équilibré. Il y en a d'autres, il y a d'autres façons, il y a des millions de façons de s'alimenter de façon équilibrée.
Quelle est la base tout de même de ce régime méditerranéen, de ce régime crétois, les principes de base qu'on peut peut-être appliquer pour parvenir à une sorte d'équilibre nutritionnel?
Alors, il y a dans le régime crétois, il y a une approche qui est liée au fait que les quantités de viande, par exemple, sont plus petites que les quantités habituelles. Les laitages sont plutôt des yaourts. Les huiles sont des huiles, entre autres l'huile d'olive. On va manger pas mal d'aliments à base de graines aussi. On va manger des aliments qui sont complets, qui n'ont pas été raffinés. Le fameux pain crétois qui est très, très,
très
particulier.
Bon.
Ouais.
Et qui nous oblige à mastiquer.
Qui nous oblige à mastiquer ou qui permet de composer des plats, notamment avec de la tomate, qui est riche en antioxydants. Donc c'est une approche globale qui permet de rééquilibrer assez naturellement son alimentation.
Catherine Lacronière.
Et beaucoup de fruits et légumes. Et ce régime crétois qui est, dont beaucoup se sont inspirés, le régime d'âge pour limiter l'hypertension artérielle, l'alimentation anti-inflammatoire. Et bien cette alimentation, c'est une alimentation santé d'abord.
Sylvain Duval.
Et il y a aussi autre chose qu'on oublie, c'est que dans, par exemple, le régime crétois et puis comment les gens se nourrissent à Okinawa, vous avez aussi...
Au Japon,
alors donc l'île des centenaires, vous avez donc des choses en commun, mais vous avez aussi un mode de vie en commun, c'est-à-dire un mode de vie près de la mer, avec de l'activité physique, et aussi une grande convivialité. Les gens sont très soudés, ouais. Par exemple, à Okinawa. Une personne qui est à la retraite, les gens vont quand même aller la voir pour lui acheter des petites choses et maintenir un lien social.
Et puis on évite donc les aliments ultra transformés, on mastique, on renoue avec la vraie faim, on mange en pleine conscience, on essaye de marcher hein, au moins une heure par jour, et puis là, ben, on arrivera peut-être à maintenir son poids ou à, sans s'en apercevoir, à perdre du poids.
Oui, je pense que quand on s'interroge sur son poids, d'une certaine façon, on s'interroge sur notre vie, notre mode de vie. Donc, c'est plutôt, il faut plutôt intégrer la nutrition. La nutrition doit être intégrée à notre mode de vie. Ça peut pas être un focus unique sur ce qu'on a mangé, ce qu'on n'a pas mangé. C'est vraiment aller vers une vie harmonieuse. Activité physique, sommeil, absence de stress, etc.
Un dernier conseil autour de la table, Catherine Lacrenière.
Oui, essayez de vous renseigner. D'abord, essayez de voir quelles sont vos erreurs alimentaires pour pouvoir mieux les corriger, changer ces vieux réflexes, souvent bien ancrés, pour aller vers une alimentation qui vous fait du bien, à la fois au niveau du goût et au niveau de vos choix alimentaires, pour améliorer vos risques de santé.
Sylvain Duval.
Manger vrai, mettre des épices, éviter les aliments ultra transformés.
Irène Margaritis.
Écoutez vos sensations, faim, satiété, écoutez plutôt l'intérieur que l'extérieur, que ce qu'on vous dit à l'extérieur ou votre miroir.
Et essayez de manger en pleine conscience. Le mot de la fin, Guillemette Odissino.
Bah moi, on m'a dit qu'en fait, quand on mangeait, c'était la culpabilité qui faisait grossir.
Merci beaucoup Irène Margaritis, Catherine Lacrenière et Sylvain Duval. Toutes les références bibliographiques sont disponibles sur l'appli et le site de France Inter. Demain, on s'intéresse aux bienfaits de l'hypocrisie.